les podcasts de Radio Vatican.
L'Europe, de nouveau touchée par la montée des extrêmes. L'AFD, le parti alternatif pour l'Allemagne, va faire son entrée au Bundestag, le parlement du pays, après les élections fédérales du 24 septembre 2017. Cet événement n'est pas une surprise, mais l'ampleur du score de l'AFD, presque 13% des voix, a provoqué une vive émotion, d'autant plus que l'Allemagne, traumatisée par la période nazie, a longtemps résisté à la percée des populismes. Comment expliquer ce phénomène? Quelle réponse peut apporter l'Église? Comme ces questions concernent l'ensemble du continent, nous les avons posées au frère Olivier Poquillon, secrétaire général de la COMECE, la Commission des Épiscopats de la Communauté Européenne.
Vu de Bruxelles, du point de vue de l'Union, effectivement, on peut se dire qu'une élection comme celle-là est un tournant. Mais ce n'est pas la seule nouveauté. On aura aussi un nouvel équilibre sans doute dans la coalition qui va se mettre en place dans les semaines qui viennent et nous verrons l'impact que ça aura sur les politiques européennes.
Il y a quelques années, on pensait que l'Allemagne, de par son histoire, était en quelque sorte un peu immunisée contre des dérives populistes. C'est manifestement pas le cas. Qu'est-ce que cela illustre ?
Les gens qui ont voté pour ces partis en Allemagne, comme d'autres ont pu le faire dans d'autres régions, hein, que ce soit au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en France, en Italie, en Espagne, dans tous les pays, aujourd'hui on voit une espèce de désillusion vis-à-vis des leaders politiques traditionnels, ou en tout cas d'une forme traditionnelle de faire de la politique. La politique est une bonne nouvelle, nous dit l'Église. Donc il s'agit pour nous, pour l'Église, de ne pas être absent de ces débats de société et de retourner à nos racines. Pas à nos valeurs, parce que les valeurs ça monte et ça descend, mais à nos racines, aux fondements qui font qu'on peut vivre ensemble en respectant l'autre, en se souvenant que notre semblable est créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Alors ça peut paraître assez théorique, mais ça implique de prendre un certain nombre de décisions, de s'engager, de ne pas être comme chrétien seulement spectateur, mais aussi acteur de ces politiques.
Mais comment être acteur justement, s'engager sans avoir l'air de condamner les personnes ?
On ne peut pas faire comme si il y avait d'un côté les bons et de l'autre les méchants. Il y a des idées auxquelles on peut souscrire, qui sont dans le sens de la doctrine sociale de l'Église, et d'autres qui ne le sont pas. En ce qui concerne les citoyens, ils peuvent voter pour qui ils veulent. Hein, c'est bien le principe d'une démocratie. Et donc, les chrétiens doivent s'investir pour essayer de convaincre ceux qui prônent des politiques qui ne vont pas dans leur sens de revenir dans le sens de l'Évangile, de montrer en quoi telle chose, telle politique ne va pas dans le sens de l'Évangile ou pas. Voilà, ça c'est quelque chose d'assez classique. En revanche, aujourd'hui, je crois qu'on ne peut pas faire l'impasse sur la prise en compte des peurs, des angoisses, du sentiment de désappropriation qui peut conduire à certains votes de défiance.
Parmi les causes de ces peurs, on cite souvent la situation économique, mais même l'Allemagne, avec un faible taux de chômage, est touchée. Quelle est la principale raison de ces peurs, alors, selon vous ?
Pour l'Europe, on pourrait dire que l'aspect démographique est peut-être sous-évalué et pas assez traité par nos gouvernants. La moyenne d'âge de notre population augmente, c'est-à-dire que nos populations globalement vieillissent et sont moins sûres d'elles-mêmes et s'interrogent sur leur avenir à court ou moyen terme. Mais les vagues populistes, elles ne touchent pas seulement l'Europe, elles touchent aussi les États-Unis, comme on l'a vu, mais elles touchent aussi l'Asie du Sud-Est, on l'a vu aux Philippines, on le voit dans d'autres régions. On a aujourd'hui un phénomène global, peut-être un sentiment de désappropriation, de perte de contrôle sur notre environnement. C'est dû en partie à des évolutions technologiques avec le numérique, c'est dû au fait aussi que nous soyons fortement impactés par des choses qui sont très éloignées de nous géographiquement. Lorsqu'un attentat a lieu à l'autre bout du monde, si c'est dans une école ou quelque chose comme ça, je vais tout de suite pouvoir m'identifier, je vais en entendre parler tout de suite alors que précédemment on en entendait parler plusieurs mois après.
Quelle réponse peut apporter l'Église à cette peur pour l'avenir, alimentée par un flot de craintes venues de partout dans le monde et venues du présent ?
L'Église a cette chance de pouvoir se situer dans le temps long et de ne pas être soumise au diktat de l'immédiateté. Pour nous, qui sommes chrétiens dans l'Union européenne, nous avons ce rôle de rappel du temps long, de la préoccupation de cette vie qui est reçue et qui est transmise. En ne cherchant pas des intérêts à remplir des objectifs à court terme, mais à viser des intérêts à long terme, pour le bien commun. Donc c'est un peu à contre-courant, c'est même parfois à l'opposé de certaines options politiques. Nous ne sommes pas là pour dire les chrétiens d'abord, les chrétiens avant les autres. Nous sommes là en tant que chrétiens pour montrer que le chrétien est celui qui se tourne vers l'universel.
Mais à trop regarder le temps long, n'y a-t-il pas le risque de se couper de la réalité d'aujourd'hui? On taxe souvent l'Église d'idéalisme, par exemple, sur la question migratoire.
Le christianisme est une religion de l'incarnation. Hein. Dieu s'est fait homme et nous rejoint dans nos réalités. Donc l'économie, les migrations, ce sont de vraies questions. Mais si nous regardons les faits, c'est-à-dire cette incarnation, la réalité dans laquelle nous vivons et dans laquelle Dieu nous a placés, c'est ce que nous croyons, eh bien, les faits nous disent que l'Europe ne s'est jamais aussi bien portée économiquement. De même que les migrations, nous avons eu des crises migratoires bien plus fortes à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, au moment des indépendances. Il y a eu d'énormes mouvements de population en Afrique, en Europe, en Asie, sans commune mesure avec ce que nous vivons aujourd'hui. En revanche, la perception que nous en avons est très différente. Il y a quelques années, nous avons déjà fait le constat de l'apparition de cette espèce de décrochage entre la réalité et la perception que nous pouvons en avoir. Je crois que ce qu'on offre dans l'Eucharistie, c'est le fruit de la terre et du travail des hommes. C'est aussi un des rôles de l'Église de réenraciner notre politique dans la réalité des hommes et des femmes que nous côtoyons dans nos paroisses. Le temps long, ça commence aujourd'hui. Ça n'est pas juste du virtuel, c'est vraiment de la réalité qui se déploie dans le temps et qui est appelée à porter du fruit.
Un projet qui était également basé sur le temps long, sur la promesse d'une paix durable, c'est le projet européen, mais lui aussi est accusé d'être coupé des réalités. C'est un danger selon vous ?
L'Union européenne n'est que le reflet de nos réalités locales. L'Union européenne n'existe pas en tant que soi. Elle est composée d'hommes et de femmes, de pays, de cultures, de religions. Et nous l'oublions trop souvent. On accuse souvent Bruxelles de décider à notre place. Même quand on est à Bruxelles, dès qu'on change de quartier, les gens nous disent « Bruxelles décide ceci ou cela ». Donc l'Union européenne, c'est ce qui la compose. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a un risque pour l'Union ? Je crois que l'Union est effectivement, comme vous le dites, un projet à long terme. C'est d'abord un projet de paix. Saint Thomas d'Aquin nous rappelle que la paix est un combat sur le long terme et un combat pour, pas un combat contre. Aujourd'hui, nous voyons des tentations isolationnistes. Le fait de privilégier les intérêts particuliers sur le bien commun conduit à la division. Et la division, eh bien, dans le christianisme, c'est l'affaire du diabolos. Nous sommes là pour travailler à l'unité, une unité qui ne soit pas utopique, mais une unité qui repose sur le bien commun et la personne humaine placée au cœur des politiques publiques. Je pense que c'est à ce prix-là que l'Union peut redevenir attractive, d'abord pour les citoyens. Les citoyens sont aussi des électeurs, ils sont aussi des contribuables, et ce sont eux, en définitive, dans nos systèmes démocratiques, qui peuvent infléchir les politiques publiques.
Mais comment remettre le citoyen, et notamment le citoyen chrétien, au cœur de ce projet ?
Je crois qu'il faut redonner cette capacité à nos concitoyens de s'investir dans les communautés, aux échelons locaux, par l'investissement donc dans les activités paroissiales, dans les activités associatives, mais aussi dans les activités politiques, pour être vraiment partie prenante de ce débat. Et en tant que chrétien, il ne s'agit pas seulement d'être un chrétien qui est en politique, mais aussi de mettre en œuvre la doctrine sociale de l'Église. Aujourd'hui, elle est sans doute trop méconnue et ça pourrait être un bon lieu d'investissement pour les années qui viennent.
Et justement, en quoi cette doctrine sociale de l'Église répond finalement aux défis qui arrivent et aux défis qui sont posés aussi par cette montée des extrémismes ?
La doctrine sociale, elle est là pour donner un cadre qui permet justement d'exprimer sa liberté. Dieu nous a créés libres et c'est cette liberté que nous sommes appelés à exercer. Alors la doctrine sociale, comme son nom l'indique, c'est un cadre pour vivre ensemble en société. On a d'un côté des valeurs qui montent et qui descendent et on a de l'autre des principes qui restent. Un peu comme le roc sur lequel nous sommes appelés à bâtir. Pour nous, le roc c'est Dieu, c'est la doctrine chrétienne, etc. Et puis après, nous allons avoir à incarner tout ça dans des réalités locales qui sont certainement différentes selon qu'on est en Pologne ou en Irlande, en Norvège ou en Italie. La doctrine sociale, ça n'est pas un cahier, un manuel du Castor Junior avec des réponses à des questions préformatées qui seraient complètement étrangères à la réalité, mais ce sont des principes qui permettent de discerner et d'élaborer avec d'autres, en commun, en formant des communautés, eh bien, notre façon de vivre ensemble sur le plan économique, sur le plan social et aussi dans bien d'autres domaines.
Ce dialogue sur l'avenir de l'Union européenne, vous voulez notamment le mettre en œuvre du 21 au 29 octobre à Rome avec des politiques et des évêques de l'Union européenne. Mais est-ce toujours possible malgré le Brexit, malgré la montée des partis eurosceptiques ?
Le fait de quitter l'Europe, c'est une utopie. Je viens d'avoir là la visite des évêques de la Commission des Affaires étrangères, des évêques d'Angleterre et du Pays de Galles, et on faisait le constat que l'Angleterre n'était pas un bateau, mais une île, et qu'elle serait toujours de l'autre côté de la Manche. Nous allons de toute façon devoir travailler ensemble. La question, c'est est-ce qu'on le fait ensemble ou contre ? Et là, c'est un choix humain. Ce choix, il a été posé comme fondement de la construction européenne, après deux guerres mondiales et une série de massacres et de ravages à travers l'Europe, entre peuples chrétiens. Nous avons donc une responsabilité particulière en tant que chrétiens, une responsabilité particulière de construire la paix. Ça n'est pas en s'abstenant de la guerre que ça fonctionnera, c'est en mettant en commun ce qui jusque-là nous opposait. Donc le dialogue, il est indispensable. Le dialogue, ça implique d'avoir des avis différents et parfois radicalement opposés. C'est ce que nous allons faire dans la salle du synode pendant 3 jours, avec des hommes et des femmes de bonne volonté, qui n'ont certainement pas les mêmes enracinements politiques, mais qui sont réunis autour du pape, sous le regard de Dieu, pour essayer au moins de comprendre l'autre avant de chercher ensemble des solutions communes.
Un entretien réalisé par Samuel Blény.